7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Mickaël.
Alors on s'intéresse, hein, elle disait une fois encore, à cette image, Olivier, qui n'en finit pas d'être commentée en France et à l'étranger, celle du DRH d'Air France, chemise arrachée, poursuivie par des salariés en colère.
Oui, ces clichés, Mickaël, ont-ils figé la réalité du dialogue social en France, la violence comme seule issue, le conflit comme unique règle? Comment s'y prennent nos voisins pour que les échanges entre patrons et salariés puissent aboutir? C'est cette dernière question qui nous intéresse ce soir. Quid du dialogue au sein des entreprises allemandes, britanniques et italiennes? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons donc mobilisé nos correspondantes dans ces pays. Premier exemple à Berlin où nous attend Nathalie Versieux. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Olivier.
Le cas de l'Allemagne, Nathalie, a souvent été mis en avant, hein, grâce notamment au fameux principe de cogestion. Cela dit, certaines corporations s'organisent, hein, depuis quelque temps pour défendre plus durement leurs intérêts, c'est ça?
Oui, effectivement, la cogestion semble mise à mal par l'émergence de plus petits syndicats très pointus ces derniers temps, comme celui des médecins d'hôpitaux, par exemple, des pilotes d'avions ou des conducteurs de train, qui sont à même de paralyser une partie du pays en ne mobilisant que quelques centaines de membres, donc a priori une efficacité maximale du point de vue des syndicats. Ce sont ces tout petits syndicats qui sont responsables depuis quelque temps de nombreuses grèves, comme celle lancinante à la Lufthansa ou bien chez Deutsche Bahn. Mais il n'est pas question pour le gouvernement allemand de tolérer la moindre entorse à la au bon fonctionnement de la cogestion. Et au cours de l'été, le cabinet a donc adopté un texte qui limitera à l'avenir l'influence de ces petites confédérations, justement pour ne pas compromettre la cogestion. Alors il faut bien voir que la cogestion en Allemagne, ça veut dire très concrètement que les représentants des salariés et donc les principaux syndicats sont associés à toutes les décisions stratégiques de leur entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus l'influence des comités d'entreprise est importante. Le cas extrême, c'est Volkswagen, où les syndicats jouent un rôle déterminant au sein du conseil de surveillance et choisissent la direction du groupe. Le principe de la cogestion est difficile à accepter pour des actionnaires étrangers, notamment américains, d'où de nombreux conflits qu'on a pu observer au sein d'entreprises américaines comme Amazon ces derniers temps.
Merci Nathalie Versieux. Dialogue, on l'a bien compris, plutôt constructif, donc la plupart du temps en Allemagne. La Grande-Bretagne, elle, ne s'embarrasse pas de ce problème, visiblement. Franck Madvon, le dialogue social, ça n'existe pas chez vous, en tout cas pas au niveau national.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas ici de grandes réunions type Grenelle avec syndicats, patronat et gouvernement. En général, les accords sociaux se négocient au niveau des entreprises. Très souvent, une organisation représente le personnel. Alors, plus de 6 millions de Britanniques tout de même sont syndiqués. C'est trois fois plus qu'en France. Mais les syndicats ont un pouvoir limité, surtout depuis les réformes des années Thatcher, des années 80. Ils jouent tout de même un rôle important dans certaines négociations. Mais les grèves sont rares. Désormais, elles sont perçues comme vraiment l'ultime recours. Ça a été le cas cet été, par exemple, dans le métro de Londres. Il est de toute façon difficile de faire grève et une nouvelle loi va bientôt restreindre un peu plus le droit de grève. Ici, en résumé, la contestation sociale est moins vigoureuse qu'en France. La presse anglaise s'est d'ailleurs étonnée des violences à Air France. Un édito du très conservateur Daily Mail affirme aujourd'hui qu'en matière de dialogue social, pour beaucoup de Français, l'intimidation fait partie du jeu. Chez nous, les travailleurs sont, je cite, plus dociles.
Franck Madvon en direct de Londres. Le degré zéro du dialogue, l'Italie l'a également connu, l'un des souvenirs des années Berlusconi. Depuis, Mathilde Imberti, on se tourne vers vous. La situation a bien évolué, même si Matteo Renzi ne semble pas vraiment s'embarrasser, lui, de l'avis des syndicats.
C'est le service minimum pour Matteo Renzi. Il a des mots très durs envers les syndicats. Encore tout dernièrement, alors que l'accès au Colisée était bloqué à Rome par une réunion syndicale, eh bien le président du Conseil s'est mis en colère contre les syndicalistes qui prennent la culture en otage. Et il a immédiatement fait passer en urgence un décret-loi qui intègre les musées à la liste des services publics essentiels, donc service minimum dans les musées. Et dans les transports, il est fréquent que ceux qui entendaient faire grève soient réquisitionnés. Dernier exemple en date, une grève prévue le jour de la rentrée scolaire a été stoppée. Alors ça dit, on ne réquisitionne pas systématiquement, il y a des grèves encore régulièrement en Italie. La semaine dernière à Rome, il y a eu une grève, mais elle a démarré à 8h30 dans les transports en commun pour se terminer à 17h30. Autrement dit, les heures de pointe étaient assurées. Alors dans les entreprises, pas de grand mouvement récemment. Le dialogue social ici repose sur la décentralisation. Dans une entreprise, les négociations peuvent aboutir à des conditions de travail inférieures à celles des conventions collectives nationales. Et la particularité, c'est que chaque accord de branche ou d'entreprise est soumis au vote de tous les salariés, même si ce sont in fine les organisations syndicales qui apposent leur signature en bas de la feuille. Donc la situation sociale actuellement en Italie n'est pas explosive. Les syndicats sont divisés, clairement. Et à l'automne dernier, face à la réforme du marché du travail, ils ne sont pas tous descendus dans la rue. La réforme de Matteo Renzi est passée et les chiffres ne vont pas inciter le gouvernement Renzi à faire un effort, puisque la reprise semble être au rendez-vous et que le taux de chômage baisse en Italie.
À chaque pays, donc, ses problématiques et sa méthode pour éviter le blocage. Merci Mathilde Imberti en direct de Londres. Pour conclure...
De Rome, pardon.
Merci Michael. Pour conclure ce tour d'Europe, Michael, direction Bruxelles. Maintenant avec vous, Quentin Dickinson. L'harmonisation sociale, Quentin, fait-elle partie des préoccupations de la Commission? C'est apparemment un vieux dossier, hein?
Oui, une préoccupation presque aussi ancienne que la CEE elle-même. En effet, puisque les partenaires sociaux se sont organisés au niveau européen dès la fin des années 1950, avec d'une part la création de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui vient d'ailleurs de tenir son 13e congrès à Paris la semaine dernière, et d'autre part le pendant patronal des grandes entreprises, aujourd'hui curieusement rebaptisé Business Europe. Les organisations patronales du secteur public et des PME sont venues ensuite compléter le dispositif. Longtemps perçu comme une coquille vide, l'Europe sociale a véritablement démarré sous l'impulsion de Jacques Delors vers la fin des années 1980 et est consacrée par le traité de Maastricht et par les traités européens suivants. Peu à peu, se sont définies des normes sociales minimum d'application dans l'ensemble des pays de l'UE. Ainsi, aux trois premiers textes, il y a une quinzaine d'années, le congé parental, le travail à temps partiel et les CDD, se sont ajoutées depuis lors une soixantaine de directives qui visent par exemple le télétravail, le stress, le harcèlement et les violences sur les lieux du travail, l'égalité homme-femme ou encore la formation professionnelle tout au long de la vie. Tout cela ne remplacera jamais les négociations sectorielles ni le droit du travail qui reste national, mais cela permet une bien utile harmonisation des textes et des pratiques ainsi que la consolidation du principe de paritarisme à tous les niveaux.
Quentin Dickinson depuis Bruxelles et l'on remercie bien évidemment tous nos correspondants pour ce rapide et rythmé tour d'Europe du dialogue social.
Et direction maintenant Israël, Olivier, où Tel Aviv semble bien loin des tensions qui règnent ces derniers jours à Jérusalem.
Oui, Michael, une manifestation a mobilisé hier une grande partie de la population pour réclamer la fermeture d'un bar, le Allenby 40.
Et tout est parti d'une vidéo filmée au téléphone portable. Sur ce film, une jeune femme presque nue ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes en public.
Une vidéo qui a circulé pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux avant que la police n'ouvre une enquête pour déterminer si la jeune femme, apparemment ivre, était ou non consentante. Bonsoir Marie Semelin.
Bonsoir Olivier.
Cette affaire, Marie, a totalement occulté, vous le confirmez, les affrontements de Jérusalem. C'est clairement le sujet qui fait aujourd'hui le plus parler dans les rues de Tel Aviv.
Oui, cette affaire est très présente ces derniers jours dans les médias israéliens et il y a de grandes conversations entre amis, entre collègues pour savoir si lorsqu'on a bu, on est responsable de tout ou non. Et parfois, le dialogue est compliqué, comme juste avant que la manifestation commence. Un homme s'approche pour donner son avis et il s'oppose à Marcel, membre de Nahamat, le plus grand mouvement féministe en Israël.
Il dit que c'est la faute de la femme. Il ne fallait pas qu'elle se présente comme ça, c'est assez sa faute. Et il la considère comme un homme qui, s'il boit et il prend la voiture et il fait un accident, c'est pareil. Même si une femme, elle veut se déshabiller et faire ce qu'elle veut avec son corps, c'est pas la raison que les hommes la violent. On manifeste pour fermer le bar. pour que ça s'ouvre plus jamais, parce que c'est une violence. Il n'y a pas un autre mot.
Marie, on imagine mal, hein, tout de même, vu de l'étranger, vu de l'extérieur en tout cas, qu'une manifestation qui ne concerne pas le conflit israélo-palestinien puisse avoir lieu, surtout en ce moment.
En fait, les manifestants ne font pas du tout de hiérarchie entre les événements récents à Jérusalem et dans les territoires palestiniens et le fait de manifester quand ils pensent qu'une femme a été violée. C'est ce qui fait l'identité de Tel Aviv, de battre à son propre rythme comme un pays à part entière. Et en face du rassemblement, nous avons croisé Yoran. Il rentre des courses, il est en grande conversation sur le trottoir et il se fiche un peu de la manifestation, mais il est content qu'elle ait lieu.
In Jerusalem.
À Jérusalem, quelque chose comme ça ne pourrait pas exister. Parce que même si une manifestation comme ça avait lieu, ce serait des religieux qui manifesteraient contre des non-religieux. Mais ici, c'est une dispute entre nous sur quelles sont les limites, quelles sont les règles. Maintenant, vous pouvez voir la différence entre deux mondes. Un monde près de la mer qui se préoccupe de sexe, et dans un autre endroit, dans les montagnes, les gens s'entretuent à cause de Dieu. C'est ça l'histoire d'Israël. Je vais à Jérusalem une fois par an, ou une fois tous les deux ans. Mais je n'aime pas le message. Le message de Jérusalem, je ne l'aime pas.
Un message qui filtre de temps en temps jusqu'à Tel Aviv. En tout cas, hier soir, c'était aussi la première fois depuis 3 semaines, depuis le début des violences à Jérusalem et en Cisjordanie, qu'une manifestation en rapport avec le conflit s'est déroulée à Tel Aviv. Une manifestation, en l'occurrence, de soutien aux Palestiniens qui a eu lieu à Jaffa, le quartier arabe de la ville.
Depuis Tel Aviv, la correspondance de Marie Semelin.